Et le principe de la loi qu'on lit dans le début de la paracha, c'est que dans tous les cas, ce contrat n'était valable que pendant 6 ans. La 7e année, il devait être libéré. S'il ne voulait pas être libéré la 7e année, et c'est là que entre la question qu'on a été posée tout à l'heure, alors il perd en principe complètement le droit d'être un jour un homme libre, mais la Torah a donné quand même une autre limite, le jubilé, au bout de la 49e année, où on est obligé à être libéré. Et s'il ne voulait pas être libéré quand même, il alors devenait esclave dans le sens banal du terme. Et par conséquent, il ne possédait plus rien. Et c'est là que le régime matrimonial était différent pour lui que pour les autres. Mais il y a un deuxième cas. C'est si quelqu'un s'était rendu coupable d'une transgression des lois sociales, en particulier le vol. Si quelqu'un avait volé parce qu'il était incapable de gagner sa vie par son propre travail, alors le tribunal le condamnait à être vendu comme esclave au marché. Et il y avait un marché aux esclaves comme il y avait un marché du travail. Aujourd'hui, comment ça s'appelle ça? Shkataravoda, c'est ça, c'est le marché aux esclaves. Bon, vous avez compris l'analogie. Alors, là aussi, c'est ce que la loi dit, dans tous les cas, à la 6e année, il faut le libérer. On va voir si on arrive à ce verset-là. Et donc, voilà quel est le raisonnement. Je vais le simplifier pour que ce soit suffisamment simple. Si il reste des questions, vous me les poserez. Le peuple d'Israël, au Sinaï, a entendu les principes de la loi de la libération des hommes libres. Mais voilà qu'une histoire va commencer où la société va fonctionner. Dès que la société fonctionne, inévitablement, il y a des forts et des faibles, il y a des maîtres et des esclaves. J'ai simplifié, schématisé, mais c'est clair. C'est-à-dire, la Torah fait un jugement, un mishpat. L'histoire va commencer, donc il y aura, elle va tout de suite à l'essentiel, donc il y aura des esclaves hébreux, parce que la société va fonctionner. Et alors la Torah intervient là. Et lorsque tu acquerras un esclave hébreu, et qu'est-ce que la Torah demande? Libère-le. Vous avez compris le raisonnement? J'ouvre une petite parenthèse de définition, que ce soit bien clair. En général, lorsqu'on cite ces lois de la Torah, on les appelle des lois de justice sociale. C'est absolument faux. Ce sont des lois d'injustice sociale. C'est-à-dire la justice de la société voudrait qu'il y ait des maîtres et des esclaves. La Torah intervient contre cette justice de la société pour obliger le maître à libérer son esclave. Vous avez compris l'enseignement qu'il y a là. Et effectivement, la Torah fait allusion à une cérémonie à la fin de la 6e année. Si le Haïved en question, je ne suis plus esclave parce que ça va chercher ailleurs, si le Haïved en question ne veut pas être libéré, il n'est pas capable de fonctionner de façon autonome, il préfère avoir un patron. Je ne sais pas si vous avez un minimum de connaissances de la psychologie sociale, l'immense majorité des citoyens ne sont incapables de fonctionner comme homme libre. Il leur faut un patron. Vous comprenez ce que je dis? Et alors, si à la 6e année, ils ne veulent pas être libérés, c'est quand des gens arrivent à la retraite, beaucoup en meurent d'arriver à la retraite. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus libres. Alors ça les rend fous. Hein? Et puis ils s'endorment. Vous avez compris ce que je veux dire? En effet, l'âge de la retraite. Il faut acheter un flambeau. Ça s'appelle la retraite. parce que sinon, on reste sur le flanc. Bon.
C'est vrai ce que tu dis au point de vue psychologique, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas fonctionner sans avoir un patron. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de gens qui voudraient bien fonctionner sans patron, mais ils n'ont pas en main les moyens de production pour pouvoir fonctionner sans patron. Et surtout dans la société.
Oui. Alors rassure-toi, c'était vrai dans toutes les sociétés. Tu as raison, mais c'est de ça que je parle. Mais c'est ça, le fait de ne pas avoir le courage de se retrousser les manches et d'affronter la vie, tout simplement. Mais c'est exact, tu dis plus que ce que j'ai dit. Écoutez, il faut quand même voir les choses comme elles sont. Je vais essayer de prendre un exemple de cela au niveau de la psychologie de l'adolescence. Vous savez, la crise de l'adolescence est très souvent une crise d'angoisse qu'il faut voler de ses propres ailes. Et alors, on est perdu. C'est l'oiseau qui ne peut pas se jeter du nid pour voler de ses propres ailes. C'est ça la crise de l'adolescence, enfin l'essentiel de la crise de l'adolescence. Et c'est pourquoi quand ça atteint les garçons, c'est plus grave que quand ça atteint les filles. Parce que les filles, c'est normal qu'elles aient des ailes. C'est une mademoiselle. Donc, je me rappelle du judo arabe. Mais, en tout cas, c'est ça le problème. Vous voyez que la Torah va à l'essentiel. C'est-à-dire, dès que la société va fonctionner, il y aura le Eved Ivri. Alors, regardez la collision des deux termes. Eved Ivri, ça ne va pas ensemble. Eved et Ivri. Ça veut dire, là où vraiment un homme est vraiment aliéné, c'est quand il s'agit d'un homme libre qui est aliéné. Parce qu'en général, les hommes sont aliénés. Mais un homme libre, aliéné, alors libère-le. Vous avez compris le problème. Alors, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Si donc à la sixième année, il ne veut pas avoir le courage de vivre comme un homme libre, alors on l'approche de la mezouza, on lui transperce l'oreille, et le Talmud explique, cette oreille qui a entendu, moi qui t'ai libéré de la maison des esclaves, et tu es esclave, alors cette oreille qui a entendu cela, on va la poinçonner. Et le Talmud discute très sérieusement de savoir s'il s'agit de l'oreille droite ou de l'oreille gauche. C'est laquelle ? Qu'est-ce que vous en savez ? Vous avez une preuve ? Alors, réfléchissez. On verra. Alors, voilà donc ce qu'il faut comprendre dans le Kitikne Eved Ivri. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ?
Pourquoi le Eved Kanani, il bénéficie de l'identité juive quand il est libéré ?
Non, c'est pas si simple que ça. Pas si simple que ça. À quoi tu penses exactement ? Il y a quelque chose comme ça, mais c'est pas comme ça.
Il est Kanani qu'on libère,
devient. Non. C'est exactement ce qu'il y a. On ne peut libérer un Eved Kanani que s'il accepte d'être juif. Que si c'est pour le rendu. Sinon, le Eved Kanani était. Il se met tout. Perpétuellement.
Je n'ai pas encore compris pourquoi un esclave qui arrive seul chez son maître et ressort marié parce que le maître lui a proposé une femme et de cette femme il a eu des enfants, la femme et les enfants restent acquis au maître et
devaient servir. C'était la question tout à l'heure, mais j'ai répondu peut-être trop par allusion. Ça veut dire que finalement, il devient, entendez les mots, bien que ce soit des mots durs à entendre, il fait partie des instruments de travail qui appartiennent à son maître. Vous avez d'ailleurs une indication. Lorsque cet esclave à la sixième année ne veut pas être libéré, son argument consiste à dire « J'aime ma femme, je veux rester esclave avec elle. » Alors oui, il faut prendre les choses au sérieux. Voilà de quoi il s'agit. Non, le verset dit « Im begapo yabo, begapo yese, aisha biladea » mais ça dépend de la femme. Dans tout cas, ça dépend de la femme. Voilà ce qu'est la loi. La loi est ainsi. C'est rare.
Il peut sortir avec sa femme et ses enfants.
Non. Oui, mais ça dépend de sa femme. Et il faudrait reprendre ça en détail sur l'étude de la Gemara d'ailleurs. Mais ce que j'ai surtout voulu éclairer, mais je m'aperçois que ce n'est pas suffisant, c'est la notion même d'esclave hébreu. Nous vivons dans des sociétés où tout ceci, à travers des siècles, d'ailleurs des millénaires de culture, de civilisation, s'est élaboré d'une certaine manière. Alors il ne faut pas juger les principes de ce que la Torah nous donne à la sortie d'Égypte. D'après ce que nous savons, nous, des sociétés dans lesquelles nous rencontrons ces mêmes réalités. Mais quand on étudie cette législation, on comprend par exemple ce que le Talmud dit lorsqu'il nous dit à propos de ce verset, celui qui a acquis un esclave, en réalité, a acquis un maître. Les droits de l'esclave, plus exactement les devoirs du maître vis-à-vis de son esclave, d'après la législation talmudique, sont exorbitants. Il doit lui donner à manger avant de manger lui-même. Par exemple, au moment de la libération, il doit lui donner sa part d'héritage comme s'il était un de ses enfants et que lui laissait par testament ses biens à ses enfants. En vérité, il s'agit d'un apprentissage à la liberté. J'essaie d'expliquer ça à travers votre question. Dans le système biblique, vous arrivez à m'entendre malgré ma voix aliénée. Dans le système biblique, il n'y avait pas de prison. Et d'ailleurs, la société israélienne n'arrive pas encore à comprendre que la criminalité est fabriquée dans les prisons. En tout cas, j'exagère un peu, mais pas tellement. Il y a beaucoup de rabbins, vous en connaissez d'ailleurs, qui s'occupent de cela, d'essayer de rééduquer ceux qui n'ont pas été capables d'être des hommes libres dans une société libre et qui finalement sont pris au piège des prisons. Mais la prison n'a jamais éduqué quelqu'un, au contraire. Elle le condamne, finalement. Je pense que c'est clair. Il n'y avait pas de peine de prison. Il n'y avait que deux peines, que deux sortes de peines. Ou bien il s'agit d'un crime tel que le tribunal a diagnostiqué qu'il y a une volonté mauvaise et inguérissable, c'était la peine de mort. Et le Talmud dit tout de suite, un tribunal qui a condamné une fois en 70 ans une peine de mort est appelé tribunal d'assassin. Je veux dire, c'est exceptionnel. Lorsque, vous savez qu'il y a très très longtemps que le Talmud a aboli la peine de mort. Mais, je vous fais une parenthèse là, mais ne croyez pas que c'est par humanisme, je ne sais pas comment dire, par évolution des idées, par le fait qu'une société qui abolit la peine de mort serait plus morale qu'une société où il y a la peine de mort. C'est tout le contraire. Ça veut dire, dans une société où la condamnation à la peine de mort est quelque chose de rare, d'occasionnel, alors c'est une société qui a un niveau moral tel que si la règle de la moralité était violée, la punition c'est la mort. Mais une société où il faut sans arrêt punir de la peine de mort, c'est une société qui est tombée si bas qu'on enlève la peine de mort, c'est plus adapté. Je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire le fait qu'on abolisse la peine de mort, c'est le signe d'une dégradation morale de la société. Est-ce que j'étais suffisamment clair? Je vais vous donner un exemple en pédagogie simple. Vous savez que les enfants ont besoin de recevoir de temps en temps une raclée. Je ne sais pas si vous savez ça. Ça me rappelle un verbe, je ne sais pas si c'est Corneille ou Racine, je ne sais plus. La valeur n'attend pas. Un nom détané. Mais si un père de famille donne à son fils une raclée par an, c'est un autre. Mais si c'est tous les jours, c'est le père qu'il faut soigner. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Donc il faut bien faire attention à ça. Et donc, il n'y avait que deux systèmes de peine. C'est ou la peine de mort quand c'est très grave, ou le Eved Ivri. On le met en apprentissage de liberté, d'afka chez celui à qui il a fait un dommage, un dol. Est-ce que c'est clair? Effectivement, on était en apprentissage de liberté. C'était ça le patron. C'était l'apotropos, le tuteur. Okay. Nous vivons dans des sociétés, on a oublié cela. Une minute. Et alors, je crois que la société israélienne a tellement de problèmes à résoudre que les prisons sont pleines. Mais c'est les universités qu'il faut changer, c'est pas les prisons. Je sais pas si c'est clair. Enfin, je veux dire le système scolaire, les écoles. Quand on arrive dans une situation où ça fait déjà 3 semaines que les universités sont en grève, c'est que c'est un pays qui est devenu fou. Et c'est pas la seule raison, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Parce que finalement, les professeurs auront ce à quoi ils ont droit. Alors pourquoi tarder si longtemps et démolir une année pour les étudiants? Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans la société en question. Alors c'est moderne. Vraiment, c'est un peuple admirable. Je crois que dans n'importe quelle autre société, il y a longtemps qu'il y aurait eu une révolution. Bon, ça va venir. Non, mais... En tout cas, voilà, je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Le Eved est un apprentissage de liberté chez un homme libre. Alors ne raisonnez pas sur les droits et les devoirs du Eved comme si c'était un homme libre. Il s'est rangé au niveau des outils de travail du patron. Mais le patron, lui, est bien embêté d'avoir un esclave, entre guillemets. Voilà, j'essaie de vous ouvrir une petite fenêtre sur ce que le Talmud dit de ces choses-là, mais il faut l'étudier dans le Talmud. Et surtout, après le Talmud, dans la Mishnah, je veux dire dans Mishneh Torah, dans les Halakhot, c'est surtout chez Maïmonide que les choses sont claires, dans le code de Maïmonide. Ne projetez pas sur des données de la Torah des notions d'une civilisation qui n'a rien à voir. Par exemple, chaque fois que j'entends la radio que la jurisprudence israélienne prend pour modèle la société anglo-saxonne. Vous avez entendu souvent ça. Alors c'est la société la plus esclavagiste qui n'a jamais existé, la société anglo-saxonne. Les Américains sont la civilisation la plus barbare que le monde ait connue. La manière dont ils ont massacré les Indiens, et alors et pas seulement les Indiens, les Noirs d'Amérique, mais ils se déculpabilisent en allant au secours des droits de l'homme chez les autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Mais malheureusement, ils sont en train de commencer à payer cher. Parce que pour nous, les croyants, c'est évident que ce n'est pas pour rien qu'il leur arrive toutes ces catastrophes invraisemblables qu'ils sont en train de subir. J'en parle parce que vraiment, notre sort est entre leurs mains. Je ne sais pas si vous voyez à quel point. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça comme ça, mais ça me frappe. Depuis la dernière guerre mondiale, si vous suivez toutes les interventions de la politique américaine sur les 5 continents, chaque fois et sans exception, le résultat a été des dizaines de millions de morts. Que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe, partout. Dès que l'Amérique s'occupe d'un problème politique, c'est la catastrophe. Et ensuite, ils viennent sauver le monde, mais toujours trop tard. Lafayette, nous voilà en retard. Je ne sais pas si vous suivez ce que je suis en train de dire. Or, actuellement, ils sont en train de nous faire la paix avec les Syriens, soi-disant. Alors imaginez à quoi on se prépare. Et qu'à voir ce qui se passe en Yougoslavie. Je referme la parenthèse. C'est important de voir que la Torah a une vision des rapports sociaux qui va directement à l'essentiel. Dès que la société va fonctionner, et c'est pourquoi ça s'appelle un mishpat, la Torah fait un jugement, donc il y aura des esclaves hébreux, donc libérés. Voilà surtout ce que je voulais dire dans ces dernières phrases. Ce n'est pas une loi de justice sociale dans le sens banal, socialisant du terme, c'est le contraire. C'est une loi de charité. C'est-à-dire, la Torah intervient. C'est l'achèvement de la sortie d'Égypte. C'est l'achèvement de l'événement de libération. Et alors, la logique est absolue. Juste après les 10 commandements, il faut parler de la libération des esclaves. Alors, j'espère que c'est suffisamment clair maintenant. Qu'est-ce que vous vouliez demander ?
Vous avez parlé des villes, des camps d'années pour le refuge.
Les villes de refuge, oui.
Les chefs
d'assassins.
Quelle place ça a dans le
C'est très bien, ça se relie. C'est pas exactement la même mitzvah, mais ça se relie au même principe. Je vais expliquer de quoi il s'agit. Lorsque il y a un meurtrier, beshogeg, c'est-à-dire par inadvertance, quelqu'un qui n'a pas voulu tuer, je vous donne l'exemple de ce que dit la Torah, un bûcheron qui est en train d'abattre un arbre, et puis voilà que le fer de la hache lui a échappé, est allé frapper un homme qui était là, un autre bûcheron. Bon, pour aller très loin. Et pourquoi il prend une hache pour démolir un arbre? Bon, c'est une autre question. Okay. Mais dans tous les cas, il n'a pas voulu tuer l'autre. Et alors, c'est ce qu'on appelle le meurtrier Beshogeg. Alors, normalement, son crime doit être puni. Pas ce qu'on appelle la loi de vengeance qu'ont gardé les Corses, la vendetta. Okay. Le Goël Adam, le plus proche parent, doit venger celui qui est mort comme cela. Mais ce n'est pas intentionnel. Alors la Torah va intervenir et va protéger ce meurtrier par inadvertance en l'envoyant dans une des villes de refuge. C'était les villes de la tribu de Lévi. Il va être en apprentissage d'homme libre chez les Lévites jusqu'à ce que, tant qu'est vivant, le grand prêtre du temps. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'une des fonctions du grand prêtre, c'était de prier pour qu'il n'arrive pas à cela, qu'il y ait des meurtres par inadvertance. Et donc, si c'est arrivé, la responsabilité, en fin de compte, retombe sur le grand prêtre. Et dès que le grand prêtre est mort, on libère ce meurtrier par inadvertance. Donc, c'est vraiment très parallèle. Et je prends le point précis du lien qu'il y a entre ces deux problèmes. Les Lévites avaient une manière de vivre exemplaire, et on envoyait dans leur village, dans leur ville, les gens à rééduquer. De la même manière que le Haéved est envoyé chez un homme libre pour être rééduqué. Vous avez compris l'analogie. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un acte même non intentionnel a quand même un agent qui a réalisé cet acte. C'est-à-dire, ce n'est pas volontaire, c'est machine instinctif, mais ce n'est pas l'instinct de n'importe qui. Et donc, il faut qu'il y ait une réparation de fait. Alors, les peines des fautes faites bichgaga, bechogeg, ne sont pas du tout les mêmes que les peines des fautes faites intentionnellement, mais il faut quand même marquer le coup, si j'ose dire. Par exemple, s'il arrive qu'un Shabbat, on a fait machinalement quelque chose d'interdit le Shabbat. On n'a pas voulu violer le Shabbat. Cependant, on l'a fait. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe qui a fait ça. Et qu'est-ce que ça veut dire, être ailleurs le jour du Shabbat, hein? Vous avez compris un peu le problème. Il y a quand même une culpabilité, bien que refoulée. J'appellerais ça une culpabilité innocente, mais c'est une culpabilité quand même. Alors, il faut un apprentissage. Il y a là, je crois, un principe de la Torah qui est très important du point de vue des sanctions. Il n'y a pas de sanctions dans la Torah. Il y a une rééducation. Est-ce que c'est clair l'idée? Je voudrais expliquer ça d'une manière très très halakhique. On n'est jamais puni pour le contenu de l'acte qu'on a fait, mais pour le fait de l'avoir fait. Parce que le contenu de l'acte qu'on a fait, on n'en est pas responsable. C'est le fonctionnement du monde qui fait que A amène B. Mais on est puni pour le fait de s'être mis dans l'engrenage du fonctionnement du monde qui fait que le résultat d'une action peut être un crime. Je ne sais pas si c'est clair, je ne vais pas donner d'exemple, parce que je ne voudrais pas vous induire en tentation. Ça veut dire, il n'y a aucune exception. J'ai étudié ça vraiment à la loupe, avec mes maîtres dans la Gemara. Il n'y a aucune exception. Tout acte interdit, il y a toujours une occasion où c'est permis et c'est un bien. Il n'y a pas d'exception. Donc ce n'est pas le contenu de l'acte qui est en question. Et c'est pourquoi la peine, la sanction est toujours formelle. On est puni d'avoir violé la loi. Non, qu'est-ce qu'on a fait? On ne va pas demander des comptes au Créateur. C'est lui qui a fait que quand ça fonctionne comme ça. Je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire qu'il faut se déculpabiliser de toutes ces pseudo-culpabilités que les gens traînent dans leur mémoire. Je vous donne un exemple d'un enseignement important à ce sujet. On n'est jamais puni pour une mauvaise intention si il n'y a pas eu passage à l'acte. Mahashavara, Akadosh Baruch Hu, Ena, Metzarefa, le Mahasé. Je ne dis pas le pshat parce que ça mènerait trop loin. C'est-à-dire, une mauvaise intention n'est pas comptée comme une mauvaise action. Nous sommes traversés par des pulsions. Alors nous ne sommes pas responsables des pulsions qui nous traversent. Mais nous sommes responsables de pulsionner avec. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas si c'est clair. Okay. De crier avec. Et je dis cela parce que très souvent, vous avez énormément d'enfants qui sont mal éduqués par leurs parents, qui les culpabilisent de choses innocentes. Il faut déculpabiliser la conscience. Parce que la conscience est exilée dans un monde qui est ce qu'il est, qui fonctionne comme il est. Et alors, encore une fois, on n'est pas puni du fait que ça se passe comme ça. On est puni du fait de se mettre là-dedans. Est-ce que c'est clair? Alors, c'est pourquoi vous avez beaucoup d'hommes pieux qui ont des scrupules exagérés, parce qu'effectivement, le scrupule, c'est cela. C'est ne pas se risquer dans une tentation. Alors, ça devient parfois exagéré. Ce que j'ai en tête, parce que j'ai vu ça à la télévision en France, c'est les autobus cachers. Alors, vous savez de quoi il s'agit? Je vais vous expliquer. Mais alors, c'est passé à la télévision française. Alors imaginez les gorges chaudes des bourgeois en France, de voir le pharisaïsme de ces juifs pieux. Moi, je les comprends très bien. Et ils ont inventé des autobus avec un rideau au milieu. Et alors, regardez le je sais pas comment dire en français, j'ai oublié. L'antiféminisme, ils mettent les hommes devant et les femmes derrière. Et au moins, la galanterie, ils auraient mis les femmes devant et les hommes derrière. Mais... et un rideau opaque. Comme pendant la Ramida. Alors, c'est le scrupule. Pourquoi ? Parce qu'on ne se met pas dans... je connais quelqu'un qui est assistante chez un dentiste. Et alors, le dentiste en question soigne des Haredim. Alors, cette pauvre assistante, elle n'arrive pas à faire son travail. Parce qu'il la regarde comme ça. On ne regarde pas une femme, surtout quand elle est assistante. Alors, quand elle lui tend un ticket, je ne sais pas quoi, il faut le poser et Dieu le prend. Parce que si jamais Dieu peut... Ça c'est la scrupulite. Alors, ça m'a fait quelque chose que je voulais vous citer. Je me souviens, il y a très très longtemps, j'étudiais chez le Rav, à la Yeshiva, et puis un Haredi, de temps en temps, ça arrivait qu'un Haredi venait faire des provocations. Vous savez, ils ont la vocation de la provocation. Et alors, il demande au Rav, le Rav était toujours très patient, il écoutait même les Haredi. Moi, j'arrive pas, mais enfin, lui, c'est le Rav. Il demande au Rav, est-ce que j'ai le droit de m'asseoir à côté d'une femme dans l'autobus ? Alors le Rav le regarde, il dit, si ça te gêne, ça t'est interdit. J'ai compris le problème. Ça les gêne. Vous lui racontez une histoire d'autobus comme ça. Un autobus israélien, bien sûr. Il y avait une place juste à côté d'une femme. Rentre un Rav, il reste debout. Et rentre un deuxième Rav, il s'assoit. Alors la femme dit, et alors ? C'est pas aussi cachère que l'autre. Il dit non. L'autre, c'est un Dayan. Moi, je suis un Haram. Alors, oui, il faut manier ça avec beaucoup d'humour. Mais dans tous les cas, c'est le scrupule. Ça veut dire qu'il ne faut pas se mettre dans le cas de risquer d'entrer dans un engrenage qui que doit. Dans... Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens qui passent leur temps à ne pas vivre. Vous voyez le courage de l'homme libre. C'est dans le même sens. C'est Avadim. Im kebanim, im karavadim. Les Juifs sont ou des fils ou des esclaves. Bon, alors ça c'est des. Est-ce qu'on a le temps ? Tout juste.
Je vais insérer ici une question. Quelle est la définition d'une chifra ?
Une chifra ? Ouh là là. Il faut faire d'abord une étymologie du mot même. C'est la même racine que mishpacha. C'est ça que tu m'as demandé.
Ça, je le sais, mais ça suffit. Oui.
Non, bien sûr, ça ne suffit pas. Mais il faut plus que 5 minutes. Disons, c'est différent quand même comme statut entre le Eved et la Chifra, mais du point de vue social, à proprement parler, c'est le même problème. Mais, dans tous les cas, pour vous donner un exemple, encore, ne faites pas des comparaisons. Parce que, encore une fois, nous vivons dans une société où ces règles ne sont pas adaptées. L'inverse, la société n'est pas adaptée à ces règles. Il est interdit à un homme d'employer une servante, une chifra, à moins de lui faire un contrat de mariage. Et qu'elle sache à l'avance, et qu'il sache à l'avance, que le jour où elle est libérée, elle devient sa femme. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir une personne. Femme à son service, si ce n'est pas sa propre femme. Ça va jusque-là. Alors aujourd'hui, vous avez des rabbins qui ont des secrétaires. Mais c'est interdit par la Torah. Ça n'existe pas. Et vous avez des médecins qui ont des infirmières. Vous savez ce qui se passe chez les médecins et les infirmières. C'est-à-dire, on ne peut pas tricher avec la Torah. C'est-à-dire, un homme n'a le droit de faire travailler une femme chez lui que s'il y a contrat de mariage. Donc si c'est une chiffrée, promesse de mariage quand elle sera libérée. Voilà. Oui, à quel niveau ça se passe ?
Ça n'a pas de lien avec ce qu'on vient de dire tout à l'heure, mais le Eved et la femme qui laisse à son maître ?
Ah oui, non, mais il n'y a pas le cas inverse. Le maître n'impose pas un mari à une chiffrée. C'est lui-même qui doit être le mari. C'est clair, là c'est différent. Et d'ailleurs, si vous étudiez la Mishnah de Kiddushin, Aïcha Niknet, Tosfot tout de suite discute. Est-ce qu'il s'agit du Baal ou du Adon ? Du Adon. Est-ce qu'il s'agit du cas d'une Chifra ou une femme mariée. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il me reste plus de temps, mais si vous voulez, on étudie ça la prochaine fois sur texte. Peut-être ce qu'on a appris essentiellement, c'est l'importance de l'étude du Talmud. On ne comprend pas un verset de la Torah si on n'a pas la Masérette qui en parle. Bon, eh bien, on se reverra donc la semaine prochaine. En attendant, Shabbat Shalom.